Vivez le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes, depuis le stand du gouvernement, en partenariat avec Radio Territoria.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Territoria, toujours en direct du stand du gouvernement, ici au 83e congrès USH. On parle bien sûr avec des spécialistes et on est ravis d'accueillir la DIAL, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. On va discuter tout de suite du logement social et de la santé mentale, comment repérer et accompagner les locataires en situation psychosociale dégradée. On est ravis d'accueillir Pascal Estécandi. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Vous êtes coordinatrice nationale de Un chez soi d'abord à la DIAL. Et également à vos côtés, Pauline Provost. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Vous êtes chef de projet au sein de la mission Accompagnement, Parcours, Accès au logement, toujours à la DIAL. Alors, on va s'intéresser à ce sujet qui est grave, qu'il faut évidemment traiter. Ces locataires en situation psychosociale dégradée, premièrement, Pascal Estécandi, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, voir comment on cible aujourd'hui ces publics, ces populations, et est-ce que ça représente si on a des chiffres?
Alors effectivement, sur la question de la santé mentale, on a un certain nombre de chiffres qui peuvent paraître parfois d'ailleurs un peu inquiétants. Si on est sur le spectre global de la santé mentale, c'est-à-dire qui va des troubles psychiques jusqu'à la pathologie, donc un spectre très très large, on a, c'est ce que dit l'OMS, une personne sur cinq vie entière qui aura des problématiques psychiques. Ça fait en gros 13 millions de Français. Si on se cible plus vers la pathologie, c'est-à-dire les troubles sévères, là on est évidemment sur un pourcentage beaucoup plus restreint, c'est en gros 3 millions de personnes en France qui ont des troubles sévères. La dépression est une des pathologies les plus fréquentes,
oui.
Avec en particulier, accentuée par la crise du Covid, une augmentation ces dernières années des problèmes de dépression, plus de 3,5 points sur ce sujet-là. Donc on peut aller même jusqu'à 20% des jeunes qui ont des vies entières, une problématique liée à la dépression. Donc on voit que c'est un phénomène qui est quand même important. Le suicide aussi, qui est la première cause de mortalité chez les jeunes 15-35 ans. Donc il y a vraiment une importance à prendre le sujet à bras-le-corps. C'est ce que font d'ailleurs les politiques publiques de la santé. On sait aussi que c'est le premier poste de dépense de l'assurance maladie, avant les questions du cancer et les questions des maladies cardiovasculaires.
C'est-à-dire la première pause de dépense, c'est-à-dire tout ce qui est maladie psychique, dépression, etc.
C'est ça, y compris problématiques neurodégénératives, type Alzheimer, etc.
Ouais, et concernant les jeunes, effectivement, on a des phénomènes d'éco-anxiété, notamment, qui peuvent aboutir
absolument
à la dépression.
Absolument.
Et qui se sont multipliés depuis la crise sanitaire.
Alors la question, c'est pourquoi coupler logement locatif social et santé mentale? En fait, parce que les bailleurs sociaux vont avoir prioritairement dans leur parc des personnes qui sont en pauvreté monétaire. Et on sait que pauvreté monétaire est souvent liée à la précarité, qui elle-même, les personnes en situation de précarité ont des problèmes d'isolement, des problèmes de rupture sociale. Et on sait aussi que la précarité est liée à l'altération de l'état de santé.
Mais oui, donc du coup, c'est un cercle vicieux.
Absolument. Donc on voit que les bailleurs sociaux vont être particulièrement concernés. Et on sait aussi, mais Pauline y reviendra, qu'en traitant des situations individuelles, on va aussi avoir un impact sur globalement le parc. Puisqu'en accompagnant une personne qui peut avoir un trouble de santé mentale au sein d'un bâtiment, d'un immeuble, on sait qu'on peut pacifier des relations de voisinage parce que ça peut entraîner des troubles de voisinage. Donc c'est vrai que les bailleurs sociaux sont particulièrement touchés sur ces questions-là, impliqués, et parce que le logement, évidemment, c'est un déterminant de la santé, un déterminant structurel de la santé.
Oui, Pauline,
voilà,
pour compléter,
nos travaux,
effectivement, sur ces publics, comment on les traite aujourd'hui, quelles sont les approches qui sont mises en place?
Alors oui, donc actuellement, la première approche pour le bailleur social, ça va être celui du repérage précoce de ces publics en situation de grande vulnérabilité. Pourquoi? Parce que le bailleur social, il est avant toute chose préoccupé par la gestion d'une forme de tranquillité résidentielle vis-à-vis du voisinage. Et donc ces personnes en situation psychosociale très dégradée peuvent aller jusqu'à créer des troubles du voisinage très forts, notamment lorsqu'ils sont en situation de crise. Donc pour agir sur ces situations, il y a plusieurs dispositifs ou plutôt bonnes pratiques qui peuvent être mis en place par les bailleurs. La première, c'est d'abord de former leur personnel à ces troubles de santé mentale. Donc, c'est ce qu'on appelle les formations de premier secours en santé mentale. C'est exactement comme les formations premier secours classiques qu'on connaît, mais cette fois-ci appliquées à la santé mentale. Et donc, ça va donner au personnel de proximité des clés pour intervenir, pour appréhender une crise. Et ça permet également, et ça, je pense que c'est important de le souligner, de renforcer la légitimité du bailleur social à intervenir. Parce que de prime abord, le bailleur se dit « moi, mon rôle, c'est de loger ». Sans considération de l'état de santé de la personne, et ça part plutôt d'une bonne volonté. On remarque qu'aujourd'hui, de par les publics de plus en plus précaires qui sont accueillis, de par le Covid, le bailleur doit aussi investir une dimension plus sociale, et ces formations, elles vont lui permettre justement de lui donner les clés pour agir sur ces situations. Et puis la deuxième chose, ça va être eh bien, de mobiliser ce voisinage justement de la façon la plus utile qui soit. Parce que le voisinage, c'est celui qui va aller alerter les gardiens d'immeubles, par exemple, alerter les acteurs de proximité. Mais ce voisinage, il peut être aussi vu comme une ressource positive finalement dans la situation. Comme une ressource positive qui va pouvoir expliquer certaines situations, qui va pouvoir calmer le voisin, etc. Et donc c'est comment le bailleur social arrive finalement à créer un écosystème où son voisinage va être mobilisé plus positivement, si j'ose dire.
Oui, effectivement, parce qu'on peut le dire, c'est vrai qu'on entend des cris, il peut y avoir des accès de violence, etc. Ça effraie non seulement les voisins, mais aussi des personnels, même avec de la bonne volonté, mais qui ne seraient pas formés. Souvent, on est un peu démunis, on appelle la police, on appelle les pompiers, on appelle le médecin, peut-être, traitant. Il faut avoir, justement, comme vous disiez, ce réflexe premier secours en santé mentale.
Absolument.
Alors, Pascal Stécornu.
C'est vrai que, comme le disait Pauline, l'important, c'est pouvoir repérer les situations, alerter, éventuellement orienter. Alors peut-être un petit focus quand même là sur le fait que, certes, il faut agir quand il y a des problématiques de crise, mais il faut bien sûr, comme l'a dit Pauline, agir bien en amont et en prévention. Et peut-être aussi rappeler, je pense que c'est important aussi pour les auditeurs, de dire que le fait d'avoir une maladie mentale n'est pas un frein au maintien dans le logement à partir du moment où la personne est accompagnée au niveau d'accompagnement nécessaire. Et ça, on l'a montré dans le dispositif Un chez soi d'abord que coordonne la DIAL, qui permet à des personnes sans domicile d'aller vers le logement moyennant un accompagnement intensif au domicile. Et on a vu que 8 personnes sur 10 se maintenaient dans le logement. Donc, en fait, quand ça marche, c'est puissant, les gens se maintiennent. Et que ces problématiques de santé mentale, cette maladie mentale, n'est pas un frein pour se maintenir dans le logement. Donc, c'est vrai que ce qui est important, c'est repérer les problématiques pour prévenir, mais ne pas non plus focaliser toute l'attention sur la question des crises, parce que sur ces moments-là, il faudra agir, comme vous l'avez dit, avec les intervenants qui agissent dans ce cas-là. Donc c'est souvent le SAMU,
Voilà, c'est-à-dire que ça, et puis je parle souvent de contrôle, je n'ai pas cité Pascal, mais vous êtes également médecin en santé publique. C'est des crises, mais qui n'arrivent évidemment pas, c'est pas 24 heures sur 24.
Absolument.
Il peut y avoir des épisodes, il peut y avoir des épisodes d'alcoolémie aussi, et on sait très bien que de toute façon, la solution de l'hôpital, elle peut être que dans les cas d'extrême urgence, mais on n'a ni les moyens ni les ressources de toute façon pour accueillir tous ces gens-là. Et puis l'idée, c'est aussi de les maintenir chez eux, c'est là où ils sont le mieux et où leur équilibre va être le plus préservé.
Absolument. La politique de santé mentale, et de toute façon, on le sait maintenant, c'est insérer les gens dans la cité. C'est ça qui fait le plus de bien, moyennant le fait qu'ils puissent être des citoyens comme tout le monde. Et c'est bien ça l'enjeu, de déstigmatiser les phénomènes de santé mentale. Et l'hôpital ne doit être là qu'en dernier recours, au moment où on en a le plus besoin.
C'est pour ça que, du coup, dans cette perspective et ce cycle de travail qu'on a mené avec les bailleurs sociaux, on a cherché à mettre en avant des outils qui vont justement permettre de maintenir dans leur logement et de stabiliser ces personnes. Et souvent, ce qu'on a remarqué, c'est que l'hôpital est toujours utile, mais cette fois-ci, l'hôpital, quand finalement les professionnels de santé viennent au domicile de la personne. Donc, c'est-à-dire plutôt que d'aller hospitaliser la personne et d'aller l'enfermer et créer aussi parfois des stress post-traumatiques, parce qu'une personne qui est hospitalisée sous contrainte, elle revient ensuite chez elle, elle peut être relativement traumatisée et en fait elle va repartir à l'hôpital dans une situation encore pire et elle va s'enfermer dans des postures de non-recours qui sont extrêmement dommageables in fine, parce que les crises deviennent ensuite se répéter. Donc on a vraiment mis en lumière ces dispositifs un peu innovants qu'on appelle équipes mobiles d'aller vers. Donc ces équipes mobiles, elles ont la particularité d'être composées à la fois de soignants et de travailleurs sociaux, parce que comme l'a dit Pascal, on est sur des gens qui cumulent précarité économique et problèmes psychiatriques de santé. Donc il faut vraiment cette intervention en binôme. Ces équipes mobiles, elles ont été beaucoup testées par les bailleurs sociaux qui en sont tous extrêmement satisfaits pour deux raisons. Je dirais d'une part parce qu'il y a la possibilité d'aller précocement repérer et agir sur des locataires dont la situation est encore sur laquelle on peut encore agir finalement. Et puis aussi parce que grâce à ce travail de l'équipe mobile, finalement, on accompagne la personne sur le long cours et on lui permet un maintien effectif dans son logement à moyen long terme. Et donc le bailleur, ça lui permet quoi in fine ? Ça lui permet en fait d'éviter de déclencher une procédure d'expulsion qui est à un moment juridiquement la seule chose dont va disposer le bailleur pour que bah, finalement pour traiter le problème, ça va être tout simplement de faire partir la personne du logement. Et grâce à l'intervention de ces équipes pluridisciplinaires, la personne se maintient dans son logement et donc la relation avec le voisinage s'en trouve aussi plus apaisée. Donc c'est un peu gagnant-gagnant à la fois pour le locataire, pour le voisinage et pour le bailleur.
Autant l'expulsion n'est pas la solution, on va juste déplacer les gens et on aura les mêmes causes produisant les mêmes effets, on aura les mêmes problèmes. Comment justement ça se passe du côté des bailleurs ? Est-ce qu'ils sont demandeurs ? Comment ils accueillent cette démarche ?
Alors oui, les bailleurs sont très demandeurs puisque, comme le disait Pauline, ils sont même souvent à l'initiative de ces démarches. Ce qu'on a vu aussi dans ces groupes de travail, c'est qu'il est vraiment très important, et là peut-être les bailleurs ont plus de mal parce que c'est pas leur monde, mais qu'ils soient en lien avec toutes les politiques publiques de la santé. Et notamment un certain nombre de tables de concertation qui existent et qui sont maintenant mises en place sur les territoires, comme les programmes territoriaux de santé mentale, les conseils locaux de santé mentale, qui sont des instances où peuvent se rencontrer des acteurs, alors à la fois des élus, des acteurs de la psychiatrie, des associations, des bailleurs, pour mettre en place des stratégies, repérer là où il y a des besoins spécifiques, et ensuite éventuellement conduire des actions, voire à certains moments pouvoir orienter certains financements. Donc ces outils, les PTSM et les CLSM sont des acronymes. C'est vrai que c'est des choses qui sont assez nouvelles, hein, ça fait une dizaine d'années. C'est vraiment dans cette idée d'ouvrir aussi sur les questions de santé mentale dans la cité. C'est-à-dire qu'il y a eu une translation entre la psychiatrie à l'hôpital et puis la question de la santé mentale qui est finalement, qui nous concerne tous au niveau de la cité. Et donc... nos travaux nous ont montré qu'un certain nombre de bailleurs le font, mais il faut vraiment insister là-dessus et peut-être leur donner un peu plus d'outils, parce qu'il y a des sites où ils peuvent trouver les adresses, il y a des coordinations nationales, notamment des CLSM. Donc c'est que ces deux mondes se croisent beaucoup plus et qu'ils puissent du coup utiliser les outils que proposent ces tables de concertation.
D'accord, donc concertation, sensibilisation, pédagogie, on l'a bien compris.
Oui, et puis juste un point peut-être qui est beaucoup plus concret. En général, dans ces tables de concertation, il y a aussi des commissions sur les situations complexes. Donc ils peuvent aussi venir expliciter une situation complexe et avoir...
Un cas pratique, enfin absolument. On prend justement et on se dit qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là.
Voilà, donc c'est aussi très concret.
Oui.
C'est pas que des discussions sur de la stratégie et de la politique, mais c'est aussi très concret, notamment les CLSM, ils ont tous une commission logement où on peut aussi travailler des situations concrètes.
D'accord, c'est pas que du blabla.
Non.
Pauline Provost, j'ai une question pour vous concernant l'habitat en lui-même pour ces personnes en situation difficile ou qui souffrent de troubles psychiques. Est-ce qu'on peut également faire quelque chose au niveau de l'habitat pour les bailleurs sociaux, aménager le logement ?
Alors oui, il y a beaucoup d'expérimentations qui concernent l'adaptation du logement. Une en particulier qu'on voudrait mettre en lumière parce qu'elle nous a semblé très, très novatrice et très utile, c'est ce qu'on appelle, c'est à Marseille, c'est le lieu de répit. Donc pourquoi il s'appelle comme ça justement en termes d'habitat ? C'est en fait un autre logement finalement, ce n'est ni l'hôpital ni le lieu de vie de la personne. Ce lieu de répit, c'est finalement des nouveaux logements qui vont permettre à la personne d'aller décompenser hors de chez elle. Je m'explique, lorsque la personne sent qu'une crise arrive, plutôt que d'aller partir en hospitalisation ou faire sa crise sur son lieu de vie, elle peut partir dans ce nouveau lieu où, et c'est très intéressant l'expérience qui nous est faite actuellement, les personnes qui vont l'accueillir dans ce lieu ne sont pas nécessairement des médecins, mais des personnes qui ont elles-mêmes ce savoir expérientiel, qui étaient elles-mêmes, qui sont passées par ces moments de crise, qui se sont stabilisées et qui vont accueillir cette personne où elle va pouvoir tout simplement se reposer, décompenser, décompresser. Elle peut y rester entre, ça peut durer quelques jours, ça peut durer plusieurs semaines. et au terme d'une forme de stabilisation de sa situation, la personne va ensuite retourner dans son logement, mais elle aura pu décompenser hors de chez elle. Et en même temps, ça s'impose, ce lieu de répit, comme une alternative à l'hospitalisation. Donc, c'est ni le lieu de vie, ni l'hôpital. D'accord. C'est quelque chose d'intermédiaire.
Un tiers-lieu un peu neutre pour décompresser, comme vous dites.
Pour décompresser, où la personne se sent bien, où elle est accueillie par des personnes qui sont passées dans la même situation qu'elle. Donc, il n'y a pas aussi de stigmatisation, etc. Et donc, c'est une expérience qui est déployée actuellement à Marseille, qui devrait bientôt s'ouvrir à Lyon. Donc voilà, qui commence à essaimer un petit peu. Et d'ailleurs, je crois qu'à Marseille, c'est une expérience qui est aussi soutenue par l'hôpital, par la PHM. Parce que c'est également une utilité pour l'hôpital. Ça permet de désengorger ses services et de faire en sorte que des personnes soient orientées vers des logements alternatifs et pas directement à l'hôpital.
J'ai une question pour vous deux. C'est vrai qu'on sait que pour les HLM, 5,2 millions de personnes qui habitent aujourd'hui dans le parc, 2 millions en attente, hein, justement, idéalement. On sait qu'on ne construit pas assez. On sait que la ressource est rare. On sait aussi, vous le disiez, tout à l'heure, effectivement, Pascal, que en ce moment, on n'a peut-être jamais été aussi fragile pour ces populations. Comment on fait pour accueillir tout ce monde à un moment où il y a pénurie? Qu'il y a des places réservées? Voilà, concrètement, est-ce que il y a des plans pour se dire à un moment, il faut intégrer tout le monde? On sait que on a des gens qui ont des ressources en plus réduites, qui cumulent les handicaps humains, financiers. C'est compliqué.
Alors, ce qu'on a constaté, d'ailleurs, tout le travail qu'on a fait avec l'USH, et on remercie vraiment l'USH de nous avoir donné aussi accès à toutes ces expériences de bailleurs. C'est que finalement, les gens qui décompensent dans le logement social ne sont pas forcément des gens qui viennent de la rue, des primo-arrivants, mais c'est souvent des gens qui sont là depuis un long parcours, qui ont des ruptures de vie. Alors on peut imaginer qui est le chômage, qui des deuils, qui, etc. Oui. Enfin voilà, un changement de vie. Et à ce moment-là, il peut y avoir des fragilités, voire un arrêt d'un suivi médical. Donc oui, bien sûr, la question c'est, il faut une acceptabilité plus grande pour accueillir des personnes qui sont éventuellement dans des situations de grande vulnérabilité, qui sortent de l'hébergement, qui sortent de la rue ou qui sont hébergées chez des tiers. L'idée c'est, quand vous dites accueillir tout le monde, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée c'est de ne pas stigmatiser les plus vulnérables.
Oui.
Voilà, dans les politiques de peuplement. En même temps, on sait que c'est des publics qui sont fragiles, donc il faut qu'ils soient dans un parc aussi qui ne soit pas non plus avec des personnes très vulnérables. Donc il faut une mixité sociale.
Il faut une mixité, oui.
Absolument. Donc tout ça est un équilibre très difficile à avoir. Mais l'idée derrière, c'est que, un, plus on travaillera à la déstigmatisation des problèmes de santé mentale, plus on travaillera à comprendre finalement que ce sont des questions qui nous interpellent collectivement, plus il nous semble que ce sera plus simple, entre guillemets, d'accueillir ces publics. Je décale un tout petit peu pour vous donner un exemple. Il y a un pays, presque un continent, qui s'appelle l'Australie, où dans les entreprises, il y a eu des grandes campagnes de « ici, on peut parler de ma santé mentale ». Oui. Et ils ont remarqué que ça diminuait notablement les arrêts de travail.
C'est-à-dire le fait d'en parler déjà.
Le fait d'en parler, voilà.
Et d'accepter.
Absolument.
Que ce soit.
Absolument.
Que ce soit.
Alors
partagé.
Évidemment, c'est pas simplement on peut en parler au coin d'un café ou. Voilà. Mais il y a toute une politique d'acceptabilité des troubles de santé mentale et on est beaucoup plus ouvert à ça. Donc l'idée derrière, c'est un peu ça, si vous voulez. C'est-à-dire de se dire, comme de toute façon, c'est une question qui maintenant nous traverse. Le Covid l'a bien montré, il faut bien que collectivement on prenne en main ces questions-là. Après, la question de la pénurie, elle est là et tout ça n'est pas miraculeux, bien évidemment.
Bien sûr. Pas de solution miracle pour la pénurie, mais c'est vrai, peut-être une meilleure appréhension depuis la crise sanitaire. On a pris conscience aussi d'une certaine fragilité et que ça n'arrive pas qu'aux autres. On connaît, je pense, tous dans nos entourages. Vous avez cité les chiffres de 3 millions de personnes qui souffrent de troubles psychiques à plus ou moins grave échelle. On en connaît tous et l'idée, c'est aussi d'y être sensibilisé et de pouvoir les aider. Pauline, sur ce sujet, alors vous m'avez dit tiers lieu ou du moins des lieux de répit. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont faites par les bailleurs pour accueillir ces publics, ou demain d'autres pistes de réflexion, peut-être en s'inspirant effectivement à d'autres pays de ce qui se fait ailleurs?
Alors, ce qui est fait et ce qui est porté, notamment dans le cadre du plan logement d'abord, par la DIAL, c'est aussi la mise en avant de ce qu'on appelle le logement adapté.
Oui.
Donc, le logement adapté, c'est justement du logement où on assume dès le début d'avoir un accompagnement. Parce qu'on sait dès le début qu'on est sur des publics extrêmement prioritaires et vulnérables, fléchés comme tels, repérés comme tels, et donc ils vont avoir besoin d'un accompagnement plus fort. Donc, ce sont ce qu'on appelle, alors on a un vocable un peu particulier et techno, mais il faut retenir que ce sont des endroits où on a un logement individuel, et également une dimension plus collective avec un hôte qui peut accueillir, proposer des activités pour les personnes, etc. Ces logements adaptés, ils sont parfois, nous, très, très intéressants à mobiliser pour ce type de personnes lorsqu'on se rend compte qu'on ne va pas s'acharner. C'est-à-dire que si la personne elle ne peut pas être maintenue dans son logement social classique, ordinaire, il faut évidemment lui proposer une solution de relogement adaptée. Nous, notre objectif à la DIAL, c'est qu'il n'y ait personne à la rue. Ensuite, que la personne soit dans un logement classique, soit dans un logement adapté, finalement, peu nous importe tant qu'elle est en logement. Donc, on porte également, avec le plan logement d'abord, la construction de pensions de famille, de résidences sociales, bref, d'un ensemble de solutions de logement adapté qui ont également pour vocation d'accueillir ces publics. Et l'idée, avec les bailleurs sociaux, déjà souvent, les bailleurs sociaux gèrent ces logements adaptés, d'une part, et d'autre part, c'est également d'organiser au mieux la transition, le relogement. Donc, comment, finalement, je fais transiter une personne de son logement social classique vers un logement adapté en conduisant un travail de conviction pour convaincre la personne concernée qu'en fait, ça va être le mieux pour elle. Donc voilà, ça, c'est un peu tout le volet logement adapté qui est notre principale réponse en termes quantitatifs, mais également qualitatifs sur ces situations psychosociales dégradées.
Est-ce qu'on a une mesure de ce qui est déjà accompli est-ce qu'on peut mesurer cet impact, le fait qu'on avance dans la bonne direction ?
L'impact qu'on a, il est sur le nombre de logements agréés qu'on a, mais encore une fois, alors qu'il ne concerne pas que les gens qui sont en situation psychosociale dégradée. Là, on parle plus largement de personnes très vulnérables, pour le coup, qui peuvent être passées par la rue ou par l'hébergement pendant un certain temps. On a sur le premier plan logement d'abord agréé 40 000 logements en intermédiation locative. Alors, intermédiation locative, pour faire très simple, c'est le parc privé à vocation sociale. Donc, c'est des bailleurs privés qui vont louer leur logement à un prix inférieur à celui du marché conventionné par une association pour accueillir des publics très précaires avec un accompagnement social. Donc, on a 40 000 places ici et on a 7 000 places en pension de famille. Donc, les pensions de famille, c'est ces logements adaptés où il y a des studios individuels et également des espaces collectifs avec des hôtes qui vont proposer des activités, etc. aux personnes. Donc on est, et avec le deuxième plan logement d'abord, on a l'ambition d'encore construire, enfin agréer plus exactement des dizaines de milliers de solutions de résidence sociale, de pensions de famille, parce qu'on a vu que c'était très porteur, qu'il y avait une forte demande.
Oui.
Et donc on sait qu'on va dans la bonne direction quand on cherche à accroître la part de logements adaptés en France.
Voilà, logement d'abord 2 qui se lance, deuxième plan quinquennal. Pascal Estécandi.
On a augmenté les attributions de logement social à des personnes venant de la rue ou de l'hébergement. Mais je n'ai pas le chiffre en tête.
On a fait, en 5 ans, on a fait avec les bailleurs sociaux 122 000 attributions pour les ménages sans domicile. Et donc, c'est une augmentation en termes de part des attributions. Je crois que c'est une augmentation de quasiment 4 points dans le total des attributions des bailleurs. Et comme vous le disiez avant, dans le contexte extrêmement tendu qui est celui des attributions de logements sociaux avec plus de 2 millions de demandeurs, on sait qu'on a travaillé très fortement avec les bailleurs et qu'eux aussi ont fait un effort très fort pour pouvoir accélérer le relogement des personnes sans domicile.
Pascal, je vous laisse le mot de la fin. C'est vrai que sur ces sujets, c'est très vaste. On pourrait évidemment en parler pendant des heures. L'idée, c'est quand même que la puissance publique et puis la solidarité nationale s'exercent pour ces publics en difficulté.
Absolument. Peut-être sur le mot de la fin, une note d'espoir. Il y a une étude qui a été faite sur la question du voisinage par un laboratoire de santé publique de Maison-Blanche. Ça a été fait par Aurélien Troiseux, qui est intervenu aussi au congrès. Ce qu'il nous disait, en fait, quand on prend le point de vue des personnes, finalement, des personnes avec des troubles de santé mentale, ce qu'elles veulent, c'est voisiner comme tout le monde.
Bien sûr.
Elles n'ont pas une modalité de voisiner différente et elles mettent en place des stratégies pour se maintenir dans le logement. Par exemple, aller péter les plombs dans le quartier d'à côté parce qu'elles veulent que leur voisinage ne soit pas en difficulté à cause de ça. Quand elles font trop de bruit parce qu'elles peuvent être envahies par des voix, le lendemain, elles vont offrir un petit cadeau au fils du voisin, ce genre de choses. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que finalement, la question du voisinage, elle nous est d'une certaine façon commune à tous et que collectivement, il faut qu'on trouve des solutions. Donc je crois que c'est un peu ce qu'on a vu dans cette étude avec l'USH et la DIAL, c'est qu'il y a une myriade de choses qui sont faites sur le terrain. Ouais. C'est vraiment très intéressant. Et je pense qu'il faut avoir espoir que tout ça nous tire vers le haut.
Bah évidemment, et puis il n'y a pas qu'une seule solution, on l'a compris, hein, c'est une multiplicité, et puis il faut vraiment être sur le terrain et travailler en bonne intelligence et en concertation. Un grand merci, on en sait un petit
merci
peu plus justement sur ce beau sujet, logement social et santé mentale. Un grand merci à nos deux experts, nos deux spécialistes, Pascal Estecandi, je rappelle que vous êtes coordinatrice nationale du 1 chez soi d'abord à la DIAL, et Pauline Provost, chef de projet au sein de la mission accompagnement, parcours, accès au logement également à la DIAL. Un grand merci et à très bientôt sur Radio Territoria.
Vivez le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes, depuis le stand du gouvernement, en partenariat avec Radio Territoria.